Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter le 20e et dernier épisode de Sun Fung. Je vous remercie pour votre patience et vos gentils messages. J'ai changé de vie et cela m'a demandé beaucoup d'adaptation. Et même si je vais le faire petit à petit, je poursuis bien sûr le montage de mes enregistrements. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Ce matin, en pensant à ta rencontre, malheureusement, on n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent. Qu'est-ce que je veux dire à Catherine, comme au cher lecteur qui m'a bien écouté, qu'est-ce que je dois leur dire? Et soudain, j'ai pensé, je veux parler sur les échos qui a prolongé la vie de mon livre, en racontant quelques histoires qui se passaient après l'apparition de mon livre en septembre 2020, écrit en vietnamien. Vous savez, au début de l'histoire, dans les années 60, quand nous revenons justement du maquis, nous étions dans des immeubles qui étaient réservés avant, sous le temps des Français. Ce sont des bâtiments qui sont construits pour, comme des pots de l'opium qui sont passés clandestinement au Vietnam. Donc, ce sont des maisons complètement sans lumière, sans fenêtres, et on peut dire que c'est un peu comme une prison, quoi. Et comme en venant, nous étions beaucoup de personnes qui descendaient de la zone libre pour s'installer à Hanoï, nous avons manqué beaucoup de confort dans ces maisons. Alors, j'ai raconté dans mon livre qu'un soir, on m'a appelé d'urgence. Celui qui m'appelait à sa femme, qui est juste à quelques maisons de mon petite demeure. Sa femme a très mal au ventre et essaie d'arriver au terme de sa naissance, mais elle ne pouvait pas bouger et il ne sait pas quoi faire. Tout immédiatement, c'était vers 3 heures du matin, j'ai pris mon petite caisse de secours d'urgence et j'étais en pyjama. Pour vous décrire un pyjama en temps de guerre, c'était des vêtements usés qu'on portait pour dormir seulement, pas pour aller dans les rues. Et tout de suite, j'ai suivi le mari, j'ai entré dans la petite chambre où sa femme est en train de gémir. Et moi, j'ai vu qu'elle est au terme déjà. Il y a beaucoup de sang sur le lit. Alors, j'ai hurlé à son mari d'aller chercher un cyclo. Heureusement qu'il se trouvait tout juste en face de notre immeuble. Moi, j'ai mis la femme à moitié affaiblie complètement. Et lui, il prend sa bicyclette et nous trois, nous pédalons. Et le cyclo force à circuler pour arriver à l'hôpital C. L'hôpital C, ce temps-là, c'est l'hôpital réservé aux femmes enceintes. Heureusement, après beaucoup de manœuvres, elle a pu mettre au monde un garçon. Et nous avons laissé se reposer la femme dans l'hôpital. Et vers 6 heures du matin ou 7 heures du matin, oui, son mari et moi, nous revenons à notre immeuble. Au cours de chemin qui conduisait l'hôpital à notre maison, juste devant une poste de police, nous avons entendu un coup de sifflet. 3 agents de la sécurité a hurlé « Arrêtez! Où allez-vous ?» Moi, j'étais surprise. Et j'ai dit, je suis revenu de l'hôpital, on a aidé la femme de monsieur à mettre au monde un enfant. À peine parlé sur ça, il dit « Menteuse !» Il a pris une torche électrique. « Regardez comment vous êtes !» Mon Dieu, parce que mon pyjama sont des vêtements usés, qu'on appelle pyjama, mais vraiment, c'est des vêtements usés. Couleur bleue, mais blanc, mais blanchâtre, saute de savon, etc. Et c'est maculé de sang de la femme. Le mari Il est en costume aussi très léger, mais aussi maculé de sang. Et nous deux, on a l'air des brigands, des assassins qui reviennent, c'est pas les personnes comme il faut. On peut rien dire, il a dit. Entrez là, il nous a poussés. Et en rentrant là, je vois des gens ivres, des filles des rues, deux voleurs, etc. Tout le monde était là et nous regardait avec des yeux très curieux. Et ils ont fermé la serrure et nous, on était dedans avec eux. Naturellement, j'ai pas accepté tout ça. J'ai appelé et après, vers 9 heures, le chef de la sécurité de ce quartier est venu me voir. Quand il a vu que j'étais là avec mon sac de secours, il a dit, où tu as volé ce sac de secours? Ce moment-là, j'étais à la fois très offensée, à la fois très énervée, à la fois très désespérée. J'ai éclaté de pleurer. Alors, le mari de la femme, de mon ami, il a dit, monsieur, je suis le représentant de commerce de Hong Kong, du Vietnam à Hong Kong. Et maintenant, c'est l'heure de travail. Je vais appeler mon personnel pour venir vous montrer les papiers. À peine 50 minutes après, il y a deux personnes très bien habillées qui sont venues voir le chef de la police. Et après, on nous a dit, excusez-nous, etc. Et nous a laissé libérer. Et ce soir-là, le mari de la femme est venu nous voir, mon mari et moi, à mon appartement, dans mon petite chambre. Et après, on a fêté ensemble la naissance de son fils. Voilà. L'histoire, c'est ça. Son fils s'appelle Zou, qui veut dire courageux en vietnamien. Voilà. Et j'ai raconté ça dans mon livre, comme une histoire qui se passait dans le temps où on revenait des temps de guerre. Après l'apparition de mon livre, j'ai une visite inattendue. Deux femmes, jeunes femmes, sont venues me voir. Une a dit, madame, tata, je suis la fille aînée du couple que vous avez sauvé. Et l'autre femme plus jeune, elle dit, je suis la veuve de Zou, l'enfant que vous avez sauvé. Vous pouvez imaginer que je suis très, très surprise et très heureuse de les revoir. Nous avons raconté ensemble nos péripéties. La fille aînée est devenue une grande doctoresse qui s'installait à Danan. Elle est très contente de son travail, tandis que la fille, la veuve du petit Zou, maintenant, Zoom est passé, mais elle est heureuse de savoir l'histoire de la naissance de Zoom, etc. Et nous avons pris des photos ensemble, et je suis contente que j'ai écrit ça pour avoir maintenant des personnes que je connaisse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, un autre jour, c'était chez moi. Une femme très jeune qui venait, qui timidement m'a demandé, madame, est-ce que vous êtes madame Ton Thak Hoang? J'ai dit oui, mais j'étais surprise parce que, vous savez, on m'appelait rarement le nom de mon mari, on m'appelait toujours madame Phuong, madame Phuong. Moi, j'étais étonnée que quelqu'un qui m'appelait madame Hoang. J'ai dit, mais vous m'excusez parce que je veux brûler des baguettes d'encens sur l'autel de votre mari. Mon mari est mort, il y avait 9 ans, et ce jour-là, elle est venue me voir en disant voilà. Et elle m'a raconté que quand nous habitions dans la rue Katina Dongkhoi, un jour mon mari a vu une petite fille qui étudiait sous la lumière d'un lampadaire de la rue. Mon mari s'est approché et a vu Lien, la petite, il s'appelle Lien. Lien a raconté que ce temps-là, elle était très pauvre. La mère vendait des boissons dans les rues et sa maison n'a pas d'électricité, faute de l'argent pour payer. Et elle doit apprendre toutes ses leçons, elle doit apprendre sous le lampadaire des rues. Mon mari a entendu tout ça depuis ce jour-là, elle a beaucoup aidé l'enfant. Elle a aidé à acheter des livres, elle a acheté des choses. Mais il y a une chose que je veux vous dire, que tout cela, elle fait, il fait, mais il ne m'a rien dit. Et il a pris sur son argent le colonel retraité. Au lieu de prendre le budget familial comme toujours, elle a pris rien sur son salaire privé. Et non seulement il a aidé la fille au cours élémentaire jusqu'au terminal du baccalauréat, encore il était venu dans les vacances à Hue pour rencontrer la petite Lien avec sa famille, sa grand-mère. Et mon mari a aidé sa grand-mère à reconstruire un peu le toit de la maison, à aider à acheter des bicyclettes, quelque chose comme ça, pour aider la vie de Lien. Et quand la petite a pu traverser brillamment le baccalauréat, elle a une bourse pour entrer dans l'université qui s'appelle l'université pour ingénieur informatique. Elle a passé brillamment les cours et après elle travaille maintenant à Ho Chi Minh Ville comme ingénieur dans une grande société. Mais depuis le jour où qu'elle a une bourse et qu'elle est diplômée à l'université, mon mari coupait tous les ponts. Elle ne peut plus savoir où est mon mari, comment faire pour écrire sa reconnaissance, etc. Jusqu'au jour où il a lu mon livre. Et grâce au livre, elle a pu découvrir ma maison, elle a pu se prosterner devant l'autel de mon mari. Et Lien a parlé avec mon mari que j'ai bien écouté. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai raconté que mon mari est décédé. C'est pour ça qu'elle est venue avec un genre de gâteau, une branche de banane pour offrir aux morts. Elle a dit à mon mari que « Cher parrain, je ne sais comment dire pour vous exprimer toute ma reconnaissance. Veuillez bien m'accepter comme la petite fille de votre famille. À la fois, j'étais très émue, comme vous le devinez, mais à la fois, je vois la bonté, la discrétion, la dignité de mon mari. Et c'est elle qui m'a donné une leçon pour mieux comprendre mon mari, que j'ai passé 61 ans ensemble, mais je connais pas cette histoire. C'est grâce au livre que j'ai pu avoir une petite fille dans la famille et en plus, je puisse encore aimer à jamais mon mari disparu. La troisième chose que je veux dire sur les échos de mon livre, c'est que, vous savez, j'ai décrit 5 petits frères et sœurs, dont 3 sœurs, une sœur disparue à cause du cancer de sang. J'ai encore 2 sœurs qui recommencent en 1989 à revenir discrètement avec beaucoup d'hésitation sur le Vietnam, parce qu'on craint toujours les Vietcong, les communistes. Mais grâce à notre réunion, j'ai beaucoup expliqué à elle, et grâce aux conversations que nous avons menées ensemble, grâce à des moments de réunion familiale, on commence à comprendre un peu les difficultés du Vietnam et pourquoi il faut reconstruire ce pays. Elle recommence à investir un peu de fonds, puis de plus en plus. Elles ont installé définitivement au Vietnam. Et maintenant, je peux vous dire, cher lecteur, que moi qui avais quitté la maison en 1946, en 2020, jusqu'à maintenant, 2021, j'ai une famille avec mes parents, mes pères et mères sont vénérés dans la pagode à Hué. Mon mari aussi a une pagode à Hué. Et mes frères et mes sœurs sont enfin réunis avec moi à Saigon. Le livre que j'ai écrit avec beaucoup de sentiments, d'émotions, pour citer sur les péripéties de ma vie, a enfin me permet de conclure que grâce à mes efforts dans la vie, malgré que j'ai dépassé largement l'âge de 92 ans, bientôt 93, je vois que ma vie est utile. Et je vois que, avec beaucoup de sincérité, de lutte, de courage, et surtout beaucoup d'amour de vivre, me rend pas solitaire. Je suis pas dans la solitude. Je suis entouré d'amour, d'affection et d'amitié.